Les frères Karamazov, deuxième partie, livre 4, Les déchirements. Chapitre 1, Le père Thérapontes. Alyosha s'éveilla avant l'aube. Le staret ne dormait plus et se sentait très faible. Néanmoins, il voulut se lever et s'asseoir dans un fauteuil. Il avait toute sa connaissance. Son visage, quoique épuisé, reflétait une joie sereine. Le regard gai, affable, attirait à lui. « Peut-être ne verrai-je pas la fin de ce jour, » dit-il à Alyosha. Il voulut aussitôt se confesser et communier. Son directeur habituel était le père Paisius. Puis on lui administra l'extrême-onction. Les religieux se réunirent, la cellule peu à peu se remplit. Le jour était venu. Il en vint aussi du monastère. Après l'office, le staré voulut faire ses adieux à tout le monde et les embrassa tous. Vu l'exiguïté de la cellule, les premiers arrivés cédaient la place aux autres. Alyosha se tenait auprès du staré, de nouveau assis dans son fauteuil. Il parlait et enseignait selon ses forces. Sa voix, quoique faible, était encore assez nette. Depuis tant d'années que je vous instruis par la parole, c'est devenu pour moi une habitude si invétérée que, même dans mon état de faiblesse actuelle, le silence me serait presque pénible, mes chers pères et frères. Plaisanta-t-il en regardant d'un air attendri ceux qui se pressaient autour de lui. Alyosha se rappela ensuite certaines de ses paroles. Mais bien que sa voix fût distincte et suffisamment ferme, son discours était assez décousu. Il parla beaucoup, comme s'il avait voulu, à cette heure suprême, exprimer tout ce qu'il n'avait pu dire durant sa vie, dans le dessein non seulement d'instruire, mais de faire partager à tous sa joie et son extase, d'épancher une dernière fois son cœur. « Aimez-vous les uns les autres, mes pères, » enseignait le staré, d'après les souvenirs d'Alyosha. « Aimez le peuple chrétien. » Pour être venus nous enfermer dans ces murs, nous ne sommes pas plus saints que les laïcs. Au contraire, tous ceux qui sont ici ont reconnu, par le seul fait de leur présence, qu'ils étaient pires que les autres hommes. Et plus le religieux vivra dans sa retraite, plus il devra avoir conscience de cette vérité. Autrement, ce n'était pas la peine qu'il vînt ici. Quand il comprendra que non seulement il est pire que tous les laïcs, mais coupable de tout envers tous, de tous les péchés collectifs et individuels, alors seulement le but de notre union sera atteint. Car sachez, mes pères, que chacun de nous est assurément coupable ici-bas de tout envers tous, non seulement par la faute collective de l'humanité, mais chacun individuellement, pour tous les autres sur la terre entière. Cette conscience de notre culpabilité est le couronnement de la carrière religieuse, comme d'ailleurs de toutes les carrières humaines. Car les religieux ne sont point des hommes à part. Ils sont l'image de ce que devraient être tous les gens en ce monde. Alors seulement votre cœur sera pénétré d'un amour infini, universel, jamais assouvi. Alors chacun de vous sera capable de gagner le monde entier par l'amour, et d'en laver les péchés par ses pleurs. Que chacun rentre en lui-même et se confesse inlassablement. Ne craignez pas votre péché, même si vous en avez conscience, pourvu que vous vous repentiez, mais ne posez pas de conditions à Dieu. Je vous le répète, ne vous enorgueillissez pas, ni devant les petits, ni devant les grands. Ne haïssez pas ceux qui vous repoussent et vous déshonorent, ceux qui vous insultent et vous calomnient. Ne haïssez pas les athées, les professeurs du mal, les matérialistes, même les méchants d'entre eux, car beaucoup sont bons, surtout à notre époque. Souvenez-vous d'eux dans vos prières. Dites « Sauve, Seigneur, ceux pour qui personne ne prie, sauve ceux qui ne veulent pas te prier. » Et ajoutez « Ce n'est pas par fierté que je t'adresse cette prière, Seigneur, car je suis moi-même vil entre tous. » Aimez le peuple chrétien. N'abandonnez pas votre troupeau aux étrangers. Car si vous vous endormez dans la cupidité, on viendra de tous les pays vous enlever votre troupeau. Ne vous lassez pas d'expliquer l'évangile au peuple. Ne vous adonnez pas à l'avarice. Ne vous attachez pas à l'or et à l'argent. Ayez la foi. Tenez ferme et haut l'étendard. Le staré, d'ailleurs, s'exprimait d'une façon plus décousue qu'on ne l'a exposé ci-dessus, et qu'Alyosha ne l'écrivit ensuite. Parfois, il s'arrêtait complètement, comme pour rassembler ses forces. Il haletait, mais demeurait en extase. On l'écoutait avec attendrissement, bien que beaucoup s'étonnassent de ses paroles et les trouvassent obscures. Par la suite, tous se les rappelèrent. Lorsque Alyosha quitta la cellule pour un instant, il fut frappé de l'agitation générale et de l'attente de la communauté qui se pressait dans la cellule et alentour. Cette attente était chez certains presque anxieuse, chez d'autres solennelle. Tous escomptaient quelques prodiges immédiatement après le trépas du staré. Bien qu'en un sens cette attente fût frivole, les moines les plus sévères y étaient sujets. Le visage le plus sérieux était celui du père Paisius. Alyosha ne s'était absenté que parce qu'un moine le demandait de la part de Rakitine, qui venait d'apporter une lettre de Madame Koklakov à son adresse. Elle communiquait une curieuse nouvelle qui arrivait fort à propos. La veille, parmi les femmes du peuple venues pour rendre hommage au staré et recevoir sa bénédiction, se trouvait une bonne vieille de la ville, Prokhorovna, veuve d'un sous-officier. Elle avait demandé au staré si l'on pouvait mentionner comme défunt, à la prière des morts, son fils Vassili, parti pour affaires de service à Irkoutsk, en Sibérie, et dont elle était sans nouvelles depuis un an. Il le lui avait sévèrement défendu, traitant cette pratique de quasi-sorcellerie. Mais, indulgent à son ignorance, il avait ajouté une consolation, comme s'il voyait dans le livre de l'avenir, suivant l'expression de Madame Koklakov. Vassili était certainement vivant. Il arriverait bientôt ou lui écrirait. Elle n'avait qu'à l'attendre chez elle. Et alors, ajoutait Madame Koklakov, enthousiasmée, la prophétie s'est accomplie à la lettre et même au-delà. À peine la bonne femme était-elle rentrée chez elle qu'on lui remit une lettre de Sibérie qui l'attendait. Bien plus. Dans cette lettre, écrite d'Yekaterinembourg, Vassili informait sa mère qu'il revenait en Russie, en compagnie d'un fonctionnaire, et que 2 ou 3 semaines après réception de cette lettre, il espérait embrasser sa mère. Madame Koklakov priait instamment Alyosha de communiquer le nouveau « miracle de cette prédiction » au père abbé et à toute la communauté. « Il importe que tous le sachent », s'exclamait-elle à la fin de sa lettre, écrite à la hâte et dont chaque ligne reflétait l'émotion. Mais Alyosha n'eut rien à communiquer à la communauté. Tous étaient déjà au courant. Rakitine, en envoyant le moine à sa recherche, l'avait chargé, en outre, d'informer respectueusement sa révérence, le père Paisius, qu'il avait à lui communiquer sans retard une affaire de première importance et le prier humblement d'excuser sa hardiesse. Comme le moine avait d'abord transmis au père Paisius la requête de Rakitine, il ne restait à Alyosha, après avoir lu la lettre, qu'à la communiquer au père à titre documentaire. Or, en lisant, les sourcils froncés, la nouvelle du « miracle », cet homme rude et méfiant ne put dominer son sentiment intime. Ses yeux brillèrent, il eut un sourire grave, pénétrant. « Nous en verrons bien d'autres, » laissa-t-il échapper. « Nous en verrons bien d'autres, » répétèrent les moines. Mais le père Paisius, fronçant de nouveau les sourcils, pria tout le monde de n'en parler à personne, jusqu'à ce que cela se confirme, car il y a beaucoup de frivolité dans les nouvelles du monde, et ce cas peut être arrivé naturellement, conclut-il, comme par acquis de conscience. mais presque sans ajouter foi lui-même à sa réserve, ce que remarquèrent fort bien ses auditeurs. Au même instant, bien entendu, le « miracle » était connu de tout le monastère, et même de beaucoup de laïcs qui étaient venus assister à la messe. Le plus impressionné paraissait être le moine arrivé la veille de Saint-Sylvestre, petit monastère situé près d'Obdorsk, dans le nord lointain, celui qui avait rendu hommage au staré aux côtés de Madame Koklakov, et lui avait demandé d'un air pénétrant, en désignant la fille de cette dame, « Comment pouvez-vous tenter de telles choses ?» Il était maintenant en proie à une certaine perplexité, et ne savait presque plus qui croire. La veille au soir, il avait rendu visite au père Thérapontes dans sa cellule particulière, derrière le rucher, et rapporté de cette entrevue une impression lugubre. Le père Thérapontes était ce vieux moine, grand jeûneur et observateur du silence, que nous avons déjà cité comme adversaire du staré Zosime, et surtout du starétisme, qu'il estimait une nouveauté nuisible et frivole. Bien qu'il ne parlât presque à personne, c'était un adversaire fort redoutable, en raison de la sincère sympathie que lui témoignaient la plupart des religieux. Beaucoup de laïcs aussi le vénéraient comme un juste et un ascète, tout en le tenant pour insensé. Sa folie captivait. Le père Thérapontes n'allait jamais chez le staré Zosime. Bien qu'il vécût à l'ermitage, on ne lui imposait pas trop la règle, eu égard à sa simplicité d'esprit. Il avait 75 ans, sinon davantage, et habitait derrière le rucher, à l'angle du mur, une cellule en bois, tombant presque en ruine, édifiée il y a fort longtemps, encore au siècle dernier, pour un autre grand jeûneur et grand taciturne, le père Jonas, qui avait vécu 105 ans et dont les exploits faisaient encore l'objet de récits fort curieux, tant au monastère qu'aux environs. Le père Thérapontes avait obtenu d'être installé dans cette cellule isolée, une simple masure, mais qui ressemblait fort à une chapelle, car elle contenait une masse d'icônes devant lesquelles des lampes brûlaient perpétuellement. Elles provenaient de dons, et le père Thérapontes semblait chargé de leur surveillance. Il ne mangeait que 2 livres de pain en 3 jours, pas davantage. C'était le gardien du rucher qui les lui apportait, mais il échangeait rarement un mot avec cet homme. Ces 4 livres, avec le pain béni du dimanche que lui envoyait régulièrement le père abbé, constituaient sa nourriture de la semaine. On renouvelait tous les jours l'eau de sa cruche. Il assistait rarement à l'office. Ses admirateurs le trouvaient parfois des journées entières en prière, toujours agenouillé et sans regarder autour de lui. Entrait-il en conversation avec eux, il se montrait laconique, saccadé, bizarre et presque toujours grossier. Dans certains cas, fort rares, il daignait répondre à ses visiteurs, mais le plus souvent il se contentait de prononcer 1 ou 2 mots étranges qui intriguaient toujours son interlocuteur, mais qu'en dépit de toutes les prières, il se refusait à expliquer. Il n'avait jamais été ordonné prêtre. S'il fallait en croire un bruit étrange qui circulait, à vrai dire, parmi les plus ignorants, le père Thérapontes était en relation avec les esprits célestes et ne s'entretenait qu'avec eux, ce qui expliquait son silence avec les gens. Le moine Obdorsk, qui était entré dans le rucher d'après l'indication du gardien, moine également taciturne et morose, se dirigea vers l'angle où se dressait la cellule du père Thérapontes. « Peut-être voudra-t-il te parler en tant qu'étranger, peut-être aussi ne tireras-tu rien de lui », l'avait prévenu le gardien. Le moine s'approcha, comme il le raconta plus tard, avec une grande frayeur. Il se faisait déjà tard. Le père Thérapontes était assis sur un petit banc, devant sa cellule. Au-dessus de sa tête, un vieil orme gigantesque agitait doucement sa ramure. La fraîcheur du soir tombait. Le moine se prosterna devant le reclus et lui demanda sa bénédiction. Veux-tu, moine, que moi aussi je me prosterne devant toi ? Proféra le père Thérapontte. Lève-toi ! Le moine se leva. Bénissant et béni, assieds-toi là. D'où viens-tu ? Ce qui frappa le plus le pauvre petit moine, c'est que le père Thérapontte, en dépit de son grand âge et de ses jeûnes prolongés, semblait encore un vigoureux vieillard, de haute stature et de constitution athlétique. Il avait le visage frais, bien qu'émacié, la barbe et les cheveux touffus et encore noirs par places, de grands yeux bleus lumineux mais fort saillants. Il accentuait fortement les « hauts ». Son costume consistait en une longue blouse roussâtre de drap grossier, comme en portent les prisonniers, avec une corde en guise de ceinture. Le cou et la poitrine étaient nus. Une chemise de toile, fort épaisse, presque noircie, qu'il gardait durant des mois, apparaissait sous la blouse. On disait qu'il portait sur lui des chaînes d'une trentaine de livres. Il était chaussé de vieux souliers presque effondrés. J'arrive du petit monastère d'Obdorsk, de Saint-Sylvestre, répondit d'un ton humble le nouveau venu, tout en observant l'ascète de ses yeux vifs et curieux, mais un peu inquiets. J'ai été chez ton Sylvestre. J'y ai vécu. Est-ce qu'il se porte bien ? Le moine se troubla. Vous êtes des gens bornés. Quel jeûne observez-vous ? Notre table est réglée d'après l'ancien usage des ascétaires. Durant le carême, les lundis, mercredis et vendredis, on ne sert aucun aliment. Le mardi et le jeudi, on donne à la communauté du pain blanc, une tisane au miel, des mûres sauvages ou des choux salés et de la farine d'avoine. Le samedi, de la soupe aux choux, du vermicelle au pois, du sarrasin à l'huile de chènevis. Le dimanche, on ajoute à la soupe du poisson sec et du sarrasin. La semaine sainte, du lundi au samedi soir, du pain, de l'eau, et seulement des légumes non cuits en quantité modérée. Encore ne doit-on pas manger chaque jour, mais se conformer aux instructions données pour la première semaine. Le vendredi saint, jeûne complet. Le samedi, jusqu'à 3 heures, où l'on peut prendre un peu de pain et d'eau, et boire une tasse de vin. Le jeudi saint, nous mangeons des aliments cuits sans beurre. Nous buvons du vin et observons la xérophagie. Car déjà le concile de Laodicée s'exprime ainsi sur le jeudi saint. Il ne convient pas de rompre le jeûne le jeudi de la dernière semaine et de déshonorer ainsi tout le carême. Voilà ce qui se passe chez nous. Mais qu'est-ce que cela en comparaison de vous, éminent père ? Ajouta le moine qui avait repris courage, car toute l'année, même à Pâques, vous ne vous nourrissez que de pain et d'eau. Le pain que nous consommons en 2 jours vous suffit pour la semaine entière. Votre abstinence est vraiment merveilleuse. Et les mousserons ? Demanda soudain le père Thérapontte. Les mousserons ? Répéta le moine stupéfait. Oui, je me passerai de leur pain, je n'en ai nul besoin. S'il le faut, je me retirerai dans la forêt. Je m'y nourrirai de mousserons ou de baies. Mais eux ne peuvent pas se passer de pain. Ils sont donc liés au diable. Au jour d'aujourd'hui, les mécréants prétendent qu'il est inutile de tellement jeûner. C'est là un raisonnement arrogant et impie. Hélas, oui, soupira le moine. As-tu vu les diables chez eux ? Demanda le père Thérapontte. Chez qui ? S'informa timidement le moine. L'année dernière, je suis allé chez le père abbé à la Pentecôte. Je n'y suis pas retourné depuis. J'ai vu alors un diable caché sur la poitrine d'un moine, sous le froc. Seules les cornes apparaissaient. Un second moine en avait un dans sa poche, qui épiait, les yeux vifs, parce que je lui faisais peur. Un troisième donnait asile à un diablotin dans ses entrailles impures. Enfin, un autre en portait un, suspendu à son cou, accroché, sans le voir. « Vous les avez vus ?» insista le moine d'Obdorsk. « Oui, te dis-je, de mes yeux vus. En quittant le père abbé, j'aperçus un diable qui se cachait de moi derrière la porte, un gaillard, long d'une aune ou davantage, la queue épaisse et fauve. Le bout se prit dans la fente, je fermai violemment la porte et lui pinçai la queue. Mon diable de gémir, de se débattre, je fis sur lui trois fois le signe de la croix. Il creva sur place comme une araignée écrasée. Il a dû pourrir dans un coin. Il en peste, mais eux, ils ne le voient ni ne le sentent. Voilà un an que je n'y vais plus. À toi seul, en tant qu'étranger, je révèle ces choses. Vos paroles sont terribles. Dites-moi, éminent et bienheureux père, est-il vrai, comme on le prétend dans les terres les plus lointaines, que vous seriez en relation permanente avec le Saint-Esprit?
Il descend parfois sur moi.
Sous quelle forme?
Sous la forme d'un oiseau.
D'une colombe, sans doute.
Ça, c'est le Saint-Esprit, mais je parle de l'Esprit-Saint, qui est différent. Il peut descendre sous la forme d'un autre oiseau, une hirondelle ou un chardonneret, parfois une mésange.
Comment pouvez-vous le reconnaître?
Il parle.
Quelle langue parle-t-il?
La langue des hommes.
Et que vous dit-il?
Aujourd'hui, il m'a annoncé la visite d'un imbécile, qui me poserait des questions oiseuses.
Tu es bien curieux, moine. Vos paroles sont redoutables, bienheureux et vénéré père. Le moine hochait la tête, mais la méfiance apparaissait dans ses yeux craintifs.
« Vois-tu cet arbre ?»
demanda après une pause le père Thérapontes.
« Je le vois, bienheureux père. Pour toi, c'est un orme, mais pour moi, tout autre chose. »«
Et quoi donc ?» s'enquit le moine anxieux.
« Tu vois ces deux branches ? La nuit, parfois, ce sont les bras du Christ qui s'étendent vers moi, qui me cherchent. Je les vois clairement, et je frémis. Oh, c'est terrible !»«
Pourquoi terrible, si c'est le Christ lui-même ?
Une nuit, il me saisira, m'enlèvera.
Vivant ?
Tu ne sais donc rien de la gloire d'Élie ? Il vous étreint et vous enlève. »
Après cette conversation, le moine d'Obdorsk regagna la cellule qu'on lui avait assignée. Il était assez perplexe, mais son cœur l'inclinait davantage vers le père Thérapontes que vers le père Zosime. Notre moine, prisant par-dessus tout le jeûne, il n'était pas surpris qu'un aussi grand jeûneur que le père Thérapontes vit des merveilles. Ses paroles semblaient absurdes, évidemment. Mais Dieu savait ce qu'elles signifiaient, et souvent les innocents, pour l'amour du Christ, parlent et agissent d'une manière encore plus étrange. Ils prenaient plaisir à croire sincèrement au diable et à sa queue pincée, non seulement dans le sens allégorique, mais littéral. De plus, dès avant son arrivée au monastère, il avait une grande prévention contre le starétisme, qu'il considérait avec beaucoup d'autres comme une innovation nuisible. Pendant la journée passée au monastère, il avait pu remarquer le secret murmure de certains groupes frivoles, opposés à cette institution. En outre, c'était une nature insinuante et subtile, qui témoignait pour toute chose une grande curiosité. Aussi, la nouvelle du nouveau miracle accompli par le staré Zosime le plongea-t-elle dans une profonde perplexité. Plus tard, Alyosha se rappela, parmi les religieux qui se pressaient autour du staré et de sa cellule, la fréquente apparition de cet hôte curieux qui se faufilait partout, prêtant l'oreille et interrogeant tout le monde. Il n'y fit guère attention sur le moment, car il avait autre chose en tête. Le staré, qui s'était recouché, éprouvant de la lassitude, se souvint de lui à son réveil et réclama sa présence. Alyosha accourut. Autour du mourant, il n'y avait alors que le père Paisius, le père Joseph et le novice Porphyre. Le vieillard, fixant Alyosha de ses yeux fatigués, lui demanda « Est-ce que les tiens t'attendent, mon fils ?» Alyosha se troubla.
N'ont-ils pas besoin de toi? As-tu promis à quelqu'un d'aller le voir aujourd'hui?
J'ai promis à mon père, à mes frères, à d'autres aussi.
Tu vois, vas-y tout de suite et ne t'afflige pas. Sache-le, je ne mourrai point sans avoir prononcé devant toi mes suprêmes paroles ici-bas. C'est à toi que je les lèguerai, mon cher fils, car je sais que tu m'aimes. Et maintenant, va tenir ta promesse. »
Alyosha se soumit immédiatement, bien qu'il lui en coûtât de s'éloigner. Mais la promesse d'entendre les dernières paroles de son maître, tel un legs personnel, le transportait d'allégresse. Il se hâta afin de pouvoir revenir plus vite, après avoir tout terminé. Quand ils eurent quitté la cellule, le père Paisius lui adressa, sans aucun préambule, des paroles qui l'impressionnèrent profondément.
« Souviens-toi toujours, jeune homme, que la science du monde s'étant développée, en ce siècle principalement, elle a disséqué nos livres saints, et après une analyse impitoyable, n'en a rien laissé subsister. Mais en disséquant les parties, les savants ont perdu de vue l'ensemble, et leur aveuglement a de quoi étonner. L'ensemble se dresse devant leurs yeux, aussi inébranlable qu'auparavant, et l'enfer ne prévaudra pas contre lui. L'Évangile n'a-t-il pas 19 siècles d'existence? Ne vit-il pas encore maintenant dans les âmes des individus comme dans les mouvements des masses? Il subsiste même, toujours inébranlable, dans les âmes des athées destructeurs de toute croyance. Car ceux qui ont renié le christianisme et se révoltent contre lui, ceux-là même sont demeurés au fond fidèles à l'image du Christ. Car ni leur sagesse, ni leur passion n'ont pu créer pour l'homme un modèle qui fût supérieur à celui indiqué autrefois par le Christ. Toute tentative en ce sens a honteusement avorté. Souviens-toi de cela, jeune homme, car ton staré mourant t'envoie dans le monde. Peut-être qu'en te rappelant ce grand jour, tu n'oublieras point ces paroles que je t'adresse pour ton bien, car tu es jeune. Grandes sont les tentations du monde, et tu n'as sans doute pas la force de les supporter. Et maintenant, va, pauvre orphelin. »
Sur ce, le père Paisius lui donna sa bénédiction. En réfléchissant à ces paroles imprévues, Alyosha comprit qu'il avait trouvé un nouvel ami et un guide indulgent dans ce moine jusqu'alors rigoureux et rude à son égard. Sans doute, le staré, se sentant à l'article de la mort, avait-il recommandé son jeune ami aux soins spirituels du père Paisius, dont cette homélie attestait le zèle. Il se hâtait d'armer ce jeune esprit pour la lutte contre les tentations et de préserver cette jeune âme qu'on lui léguait, en élevant autour d'elle le rempart le plus solide qu'il put imaginer. Chapitre 2. Alyosha chez son père. Alyosha commença par se rendre chez son père. En approchant, il se rappela que Fiodor Pavlovitch lui avait recommandé la veille d'entrer à l'insu d'Ivan.
« Pourquoi ? » se demanda-t-il. « Si mon père veut me faire une confidence, est-ce une raison pour entrer furtivement ?»
Il voulait sans doute, dans son émotion, me dire autre chose, et il n'a pas pu. Néanmoins, il fut bien aise d'apprendre de Martine Yatievna, qui lui ouvrit la porte du jardin. Grigori était couché, malade. Qu'Ivan était sorti depuis 2 heures.
Et mon père?
Il s'est levé, il prend son café, répondit la vieille. Alyosha entra. Le vieux, assis à sa table, en pantoufles et en veston usé, examinait des comptes pour se distraire, sans y prendre du reste grand intérêt. Son attention était ailleurs. Il se trouvait seul à la maison, Smerdiakov étant parti aux provisions. Bien qu'il se fût levé de bonne heure et qu'il fît le brave, il paraissait fatigué, affaibli. Son front, où s'étaient formés pendant la nuit des ecchymoses, était entouré d'un foulard rouge. Le nez, fortement enflé, donnait à son visage une expression particulièrement méchante, irritée. Le vieillard, qui s'en rendait compte,
accueillit Alyosha d'un regard peu amical.
« Le café est froid, » dit-il d'un ton sec. « Je ne t'en offre pas. Aujourd'hui, mon cher, je n'ai qu'une soupe de poisson et je n'invite personne. Pourquoi es-tu venu ?»«
Je suis venu prendre de vos nouvelles, » proféra Alyosha.
« Oui, d'ailleurs, je t'avais prié hier de venir.
Sottise que tout cela.
Tu t'es dérangé en vain. Je savais bien que tu viendrais. »
Ces paroles reflétaient le sentiment le plus malveillant. Cependant, il s'était levé et examinait anxieusement son nez au miroir. Pour la 40e fois peut-être depuis le matin. Il arrangea avec coquetterie son foulard rouge.
« Le rouge me va mieux. Le blanc rappelle l'hôpital, » déclara-t-il sur un ton sentencieux. « Eh bien, quoi de nouveau? Que devient ton staré ?»«
Il va très mal. Il mourra peut-être aujourd'hui, » dit Alyosha. Mais son père n'y prit pas garde.
« Ivan est sorti, » dit-il soudain. « Il s'efforce de chipper à Mitya, sa fiancée. C'est pour cela qu'il reste ici, »
ajouta-t-il rageur, la bouche contractée, en regardant Alyosha.
Vous l'a-t-il dit, lui-même ? Depuis longtemps, il y a déjà 3 semaines. Ce n'est pas pour m'assassiner en cachette qu'il est venu. Il a donc un but.
Comment ? Pourquoi dites-vous cela ? Fit Alyosha avec angoisse.
Il ne demande pas d'argent, c'est vrai. D'ailleurs, il n'aura rien. Voyez-vous, mon très cher Alexei Fiodorovitch, j'ai l'intention de vivre le plus longtemps possible. Prenez-en note. J'ai donc besoin de tout mon argent, et plus j'avancerai en âge, plus il m'en faudra. »
Continua Fiodor Pavlovitch, les mains dans les poches de son veston taché, en calmande jaune.
« À 55 ans, j'ai conservé ma force virile, et je compte bien que cela durera encore 20 ans. Or, je vieillirai, je deviendrai repoussant. Les femmes ne viendront plus de bon cœur. J'aurai donc besoin d'argent. Voilà pourquoi j'en amasse le plus possible. Pour moi seul, mon cher fils Alexei Fiodorovitch, sachez-le bien, car je veux vivre jusqu'à la fin dans le libertinage. Rien ne vaut ce mode d'existence. Tout le monde déblatère contre lui, et tout le monde le pratique, mais en cachette, tandis que moi je m'y adonne au grand jour. C'est à cause de ma franchise que tous les gredins me sont tombés dessus. Quant à ton paradis, Alexei Fiodorovitch, tu sauras que je n'en veux pas. En admettant qu'il existe, il ne saurait convenir à un homme comme il faut. On s'endort pour ne plus se réveiller, voilà mon idée. Faites dire une messe pour moi si vous voulez. Sinon, que le diable vous emporte. Voilà ma philosophie. Hier, Ivan a bien parlé à ce sujet. Pourtant, nous étions sous. C'est un hableur, dépourvu d'érudition. Il n'a guère d'instruction, sais-tu. Il se tait et rit de vous en silence. Voilà tout son talent.
Alyosha écoutait sans mot dire.
Pourquoi ne me parle-t-il pas? Et quand il parle, il fait le malin. C'est un misérable, ton Ivan. J'épouserai tout de suite Grushenka, si je veux. Car avec de l'argent, il suffit de vouloir. « Alexei Fiodorovitch, on a tout. C'est ce dont Ivan a peur. Il me surveille. Et pour empêcher mon mariage, il pousse Mitya à me devancer. De la sorte, il entend me préserver de Krutchenka, dans l'espoir d'hériter si je ne l'épouse pas. D'autre part, si Mitya se marie avec elle, Ivan lui souffle sa riche fiancée. Voilà son calcul. C'est un misérable, ton Ivan. »
« Comme vous êtes irascible, c'est la suite d'hier, vous devriez vous coucher, » dit Alyosha.
« Tes paroles ne m'irritent pas, » observa le vieillard, « tandis que venant d'Ivan, elles me fâcheraient. Ce n'est qu'avec toi que j'ai eu de bons moments, car je suis méchant. »
« Vous n'êtes pas méchant, vous avez l'esprit faussé, » objecta Alyosha souriant.
« Je voulais faire arrêter ce brigand de Mitya. » Et maintenant, je ne sais quel parti prendre. Sans doute, cela passe aujourd'hui pour un préjugé de respecter père et mère. Néanmoins, les lois ne permettent pas encore de traiter un père par les cheveux, de le frapper au visage à coups de botte, dans sa propre maison,
et de le menacer devant témoins de venir l'achever. Si je voulais, je le materais, et je pourrais le faire arrêter pour la scène d'hier.
Alors, vous ne voulez pas porter plainte ?
Yvan m'en a dissuadé. Je me moque d'Yvan, mais il y a une chose.
Il se pencha vers Alyosha et continua d'un ton confidentiel.
Que je le fasse arrêter, le gredin, elle le saura et accourra vers lui. Mais qu'elle apprenne qu'il m'a à moitié assommé, moi, débile vieillard, elle l'abandonnera peut-être et viendra me voir. Tel est son caractère. Elle n'agit que par contradiction. Je la connais à fond.
Tu ne veux pas de cognac ? Prends donc du café froid. Je te verserai dedans un peu de cognac. Un quart de petit verre. Cela donne bon goût.
Non, merci. J'emporterai ce pain, si vous le permettez, dit Alyosha, en prenant un petit pain mollet qu'il glissa dans la poche de son froc.
Vous ne devriez plus boire de cognac, conseilla-t-il d'un ton timide, en jetant un coup d'œil furtif sur le vieillard.
Tu as raison, cela m'irrite, mais rien qu'un petit verre.
Il ouvrit le buffet, se versa un petit verre, referma le meuble et en remit la clé dans sa poche.
« Cela suffit, je ne crèverai pas d'un petit verre. »«
Vous voilà meilleur. »«
Je t'aime, même sans cognac. »« Et je suis une canaille pour les canailles. »«
Yvan ne part pas pour Tchermachnia. »« C'est afin de m'espionner. »« Il veut savoir combien je donnerai à Grushenka si elle vient. »«
Ce sont tous des misérables. »«
D'ailleurs, je renie Yvan. »« Je ne le comprends pas. »
D'où vient-il ? Son âme n'est pas faite comme la nôtre.
Il compte sur mon héritage.
Mais je ne laisserai pas de testament, sachez-le.
Quant à Mitya, je l'écraserai comme un cafard.
Je l'ai fait craquer la nuit sous ma pantoufle. Et ton Mitya craquera de même.
Je dis ton Mitya parce que tu l'aimes, mais cela ne me fait pas peur. Si c'était Yvan qui l'aima, je craindrais pour moi-même. Mais... Yvan n'aime personne. Il n'est pas des nôtres. Les gens comme lui, mon cher, ne sont pas pareils à nous. C'est de la poussière. Que le vent souffle et cette poussière s'envole. C'est une fantaisie qui m'a pris hier quand je t'ai dit de venir aujourd'hui. Je voulais me renseigner par ton intermédiaire au sujet de Mitya. Est-ce qu'en échange de 1000 ou 2000 roubles, ce gueux, ce vaurien, consentirait à s'en aller d'ici pour 5 ans? Ou mieux, pour 35 ans, et à renoncer à Grushka. Hein ?
Je lui demanderai, murmura Alyosha. Pour 3000 roubles, peut-être qu'il...
Nenni ! Il ne faut rien demander maintenant. Je me suis ravisée. C'est une lubie qui m'a pris hier. Je ne lui donnerai rien. Pas une obole. J'ai besoin de mon argent.
Répéta le vieux avec un geste expressif.
« De toute façon, je l'écraserai comme un cafard. »«
Ne lui dis rien. Il compterait encore là-dessus. »« Mais tu n'as rien à faire chez moi. Va-t'en. »«
Et sa fiancée, Catherine Ivanovna, qu'il m'a toujours cachée si soigneusement, l'épousera-t-elle, oui ou non ?»«
Tu es allé la voir hier, je crois. »«
Elle ne veut l'abandonner à aucun prix. »«
Voilà les individus qu'aiment ces tendres demoiselles. » Des noceurs, des gredins. Elles ne valent rien, ces pâles créatures. Si j'avais sa jeunesse et ma figure d'alors, car à 28 ans j'étais mieux que lui, je remporterais même succès. Canaille, va. Mais il n'aura pas Grushenka. Il ne l'aura pas. Je le broierai.
Il devint hargneux à ces dernières paroles.
Va-t'en aussi, tu n'as rien à faire chez moi aujourd'hui, dit-il sèchement.
Alyosha s'approcha pour lui dire adieu et le baisa à l'épaule.
« Pourquoi ? » demanda le vieux surpris. « Crois-tu donc que nous nous voyons pour la dernière fois ?»«
Pas du tout, c'est par hasard. »«
Moi aussi, je dis cela comme ça, »
fit le vieillard en le regardant.
« Écoute, écoute !» cria-t-il derrière lui. « Reviens bientôt, il y aura une soupe de poisson fameuse, pas comme aujourd'hui. » « Viens demain, entends-tu ?»
Aussitôt qu'Alyosha fut sorti, il retourna au buffet et absorba un demi-verre de cognac. « En voilà assez !» marmotta-t-il en soufflant. Il referma le buffet, remit la clé dans sa poche, puis, à bout de force, alla s'étendre sur son lit, où il s'endormit aussitôt. Chapitre 3. La rencontre avec les écoliers.
Quel bonheur que mon père ne m'ait pas questionné au sujet de Krouchenka, se disait Alyosha en se dirigeant vers la maison de Madame Kroklakov. Il aurait fallu lui raconter ma rencontre d'hier.
Il pensait avec chagrin que, durant la nuit, les adversaires avaient repris des forces, que leur cœur était de nouveau endurci.
Mon père est irrité et méchant, il demeure ancré dans son idée.
Dmitri s'est lui aussi affermi et doit avoir un plan. Il faut absolument que je le rencontre aujourd'hui. Mais les réflexions d'Alyosha furent interrompues par un incident qui, malgré son peu d'importance, ne laissa pas de le frapper. Comme il approchait de la rue Saint-Michel, parallèle à la Grand-Rue, dont elle n'est séparée que par un ruisseau, notre ville en est sillonnée, il aperçut en bas, devant la passerelle, un petit groupe d'écoliers, enfants de 9 à 12 ans au plus. Ils retournaient chez eux après la classe, avec leurs sacs en bandoulière. D'autres le portaient fixé au dos par des courroies. Les uns avec une veste, d'autres des pardessus. Quelques-uns portaient des bottes plissées, de ces bottes dans lesquelles aiment à parader les enfants gâtés par des parents à leur aise. Le groupe discutait avec animation et semblait tenir conseil. Alyosha s'intéressait toujours aux enfants qu'il rencontrait. C'était le cas à Moscou, et bien qu'il préférât les bébés dans les 3 ans, les écoliers de 10 à 11 ans lui plaisaient beaucoup. Aussi, malgré ses préoccupations, voulut-il les aborder, entrer en conversation avec eux. En s'approchant, il considérait leur visage vermeil et remarqua que tous les garçons tenaient une ou deux pierres à la main. Au-delà du ruisseau, à environ 30 pas, se tenait, adossé à une palissade, un écolier avec son sac sur la hanche, paraissant 10 ans au plus, pâle, l'air maladif, avec des yeux noirs qui étincelaient. Il scrutait du regard les 6 écoliers, ses camarades, avec lesquels il semblait fâché. Alyosha s'avança et, s'adressant à un garçon frisé, blond, vermeil, en veston noir, il fit observer en le regardant. « Quand j'avais votre âge, on portait le sac du côté gauche, afin de l'atteindre de la main droite. Mais le vôtre est du côté droit. » « Ce ne doit pas être commode. » Sans aucune préméditation, Alyosha avait commencé par cette remarque pratique. Un adulte ne peut procéder autrement s'il veut gagner la confiance d'un enfant, et surtout d'un groupe d'enfants. Il fallait débuter sérieusement. Pratiquement, pour se mettre sur un pied d'égalité. D'instinct, Alyosha s'en rendit compte. « Il est gaucher !» répondit aussitôt un autre garçon de 11 ans, à l'air résolu. Les 5 autres fixaient Alyosha. « Il lance les pierres de la main gauche !» fit remarquer un 3e. Au même instant, une pierre fut jetée sur le groupe, effleurant le gaucher, mais elle alla se perdre, quoique envoyée avec adresse et vigueur. Elle avait été lancée par le garçon posté au-delà du ruisseau.
« Hardi, cogne dessus, Smourov !»
crièrent-ils tous. Le gaucher ne se fit pas prier et rendit aussitôt l'appareil. Il n'eut pas de succès, et sa pierre frappa le sol. L'adversaire riposta par un caillou qui atteignit assez rudement Alyosha à l'épaule. On voyait à 30 pas que ce gamin avait les poches de son pardessus gonflées de pierres.
« C'est vous qui le visez, car vous êtes un Karamazov !»
s'écrièrent les garçons en éclatant de rire.
« Allons, tous à la voix sur lui ! Feu !»
6 pierres volèrent ensemble. Atteint à la tête, le gamin tomba, mais pour se relever aussitôt, et riposta avec acharnement. Des 2 côtés, ce fut un bombardement ininterrompu. Beaucoup dans le groupe avaient aussi leurs poches pleines de projectiles.
« Y pensez-vous ? N'avez-vous pas honte, mes amis ? 6 contre 1, vous allez le tuer !»
s'écria Alyosha.
Il courut en avant s'exposer au projectile pour protéger ainsi le gamin au-delà du ruisseau. Trois ou quatre s'arrêtèrent pour une minute.
« C'est lui qui a commencé !»
cria d'une voix irritée un garçon en blouse rouge.
« C'est un vaurien! Tantôt, il a blessé en classe Krasotkine avec son canif. Le sang a coulé. Krasotkine n'a pas voulu rapporter. Mais lui, il faut le battre !»«
Pourquoi donc? Vous devez le taquiner vous-même. »
« Il vous a encore envoyé une pierre dans le dos. Il vous connaît !»
s'écrièrent les enfants.
« C'est vous qu'il vise maintenant. Allons, tous encore sur lui. Ne le manque pas, Smourov !»
Le bombardement recommença, cette fois impitoyable. Le gamin isolé reçut une pierre à la poitrine. Il poussa un cri, se mit à pleurer et s'enfuit par la montée vers la rue Saint-Michel. Dans le groupe, on s'écria «
« Ah, il a eu peur, il s'est sauvé, le torchon de Tille !»«
Vous ne savez pas encore, Karamazov, comme il est vil. Ce serait peu de le tuer !» répéta le garçon aux yeux ardents, qui paraissait être le plus âgé.
« C'est un rapporteur ?»
demanda Alyosha. Les garçons échangèrent des regards d'un air moqueur.
« Vous allez par la rue Saint-Michel ?» continua le même. « Alors rattrapez-le !» « Voyez, il s'est arrêté de nouveau. Il attend et vous regarde. »«
Il vous regarde! Il vous regarde !» reprirent les gamins.
« Demandez-lui donc s'il aime un torchon de tille défait. Vous entendez? Demandez-lui ça !»
Ce fut un éclat de rire général. Alyosha et les enfants croisaient leurs regards.
« N'y allez pas! Il vous blessera !»
cria obligeamment Smourov.
« Mes amis, je ne le questionnerai pas à propos du torchon de tille, car vous devez le taquiner de cette manière. Mais je m'informerai auprès de lui pourquoi vous le haïssez tant. »«
Informez-vous ! Informez-vous !»
crièrent les gamins en riant. Alyosha franchit la passerelle et gravit la montée le long de la palissade, droit au réprouvé.
« Attention ! » lui cria-t-on. « Il ne vous craint pas ! Il va vous frapper en traître, comme Krasotkine. »
Le garçon l'attendait, immobile. Arrivé tout près, Alyosha se trouva en présence d'un enfant de 9 ans, faible, chétif, au visage ovale, pâle, maigre, avec de grands yeux sombres qui le regardaient haineusement. Il était vêtu d'un vieux pardessus, devenu trop court. Ses bras nus sortaient de ses manches. Il avait une grande pièce au genou droit de son pantalon et un trou à son soulier droit, à la place du gros orteil, dissimulé avec de l'encre. Les poches du pardessus étaient gonflées de pierre. Alyosha s'arrêta à 2 pas et le regarda d'un air interrogateur. Le gamin, devinant aux yeux d'Alyosha qu'il n'avait pas l'intention de le battre, reprit courage et parla le premier.
« J'étais seul contre 6. « Je les assommerai tous !»
dit-il, le regard étincelant. « Une pierre a dû vous faire très mal !» observa Alyosha.
« J'ai atteint Smourov à la tête, moi » répliqua-t-il.
« Ils m'ont dit que vous me connaissiez et que vous m'aviez lancé une pierre à dessein !» demanda Alyosha. L'enfant le regardait d'un air sombre.
« Je ne vous connais pas. Est-ce que vous me connaissez ? » continua-t-il.
« Laissez-moi tranquille !»
s'écria soudain le garçon d'une voix irritée et le regard hostile, mais sans quitter sa place. Il semblait attendre quelque chose.
« C'est bien, je m'en vais, » fit Alyosha, « mais je ne vous connais pas et ne veux pas vous taquiner. Pourtant, vos camarades m'ont dit comment il fallait faire. Adieu.
« Espèce d'ensoutané !»
cria le gamin en suivant Alyosha du même regard haineux et provoquant. Il se mit sur la défensive, croyant que celui-ci allait se jeter sur lui. Mais Alyosha se retourna, le regarda et suivit son chemin. Il n'avait pas fait 3 pas qu'il reçut dans le dos le plus gros des cailloux qui remplissait la poche du pardessus.
« Comment ? Par derrière ? C'est donc vrai ce qu'ils disent, que vous attaquez en traître ?»
Alyosha se retourna, visé à la figure, il eut le temps de se garer et un nouveau projectile l'atteignit au coude.
« N'avez-vous pas honte ? Que vous ai-je fait ? » s'écria-t-il.
Le gamin attendait, silencieux et agressif, persuadé que cette fois Alyosha riposterait. Voyant que sa victime ne bougeait toujours pas, il devint furieux comme un petit fauve et s'élança. Avant qu'Alyosha eût pu faire un mouvement, le drôle lui avait empoigné la main gauche et cruellement mordu un doigt. Alyosha poussa un cri de douleur et tâcha de se dégager. Le gamin le lâcha enfin, recula à l'ancienne distance. La morsure près de l'ongle était profonde, le sang coulait. Alyosha sortit son mouchoir, en enveloppa solidement sa main blessée. Cela prit environ une minute. Cependant, le gamin attendait. Alyosha leva sur lui son paisible regard.
« Eh bien, dit-il, voyez comme vous m'avez mordu cruellement. Ça suffit, je pense. Maintenant, dites-moi ce que je vous ai fait. »
Le garçon le considéra avec surprise.
« Je ne vous connais pas du tout et vous vois pour la première fois, » poursuivit Alyosha avec le même calme. « Mais je dois vous avoir fait quelque chose. Vous ne m'auriez pas tourmenté pour rien. Alors, dites-moi, que vous ai-je fait? En quoi suis-je coupable devant vous ?»
En guise de réponse, l'enfant se mit à sangloter et se sauva. Alyosha le suivit lentement dans la rue Saint-Michel et l'aperçut encore longtemps, qui courait en pleurant, sans se retourner. Il se promit, dès qu'il aurait le temps, de le retrouver et d'éclaircir cette énigme.